Bonjour à vous toutes et vous tous. Nous sommes aujourd'hui le 16 septembre 2015. Clotilde Seille et toutes les voix de service du mercredi de Canal M vous souhaitent la plus cordiale des bienvenues et vous accueille à ce magazine qui va se poursuivre jusqu'à 11h45. Et vous savez que nous nous levons très tôt pour fureter, fouiller dans tout ce qui s'écrit, notamment dans les journaux, mais dans les revues, les magazines et également sur le web, pour vous informer, mais aussi pour vous distraire. Et aujourd'hui, j'ai retenu pour vous, pour ma part, mais les autres voix de service, autres collaborateurs, nous diront ce qu'ils ont retenu pour vous. Mais en ce qui me concerne, nous allons commencer, une fois n'est pas coutume, par le Journal de Montréal. Quelques nouvelles diverses, mais aussi Monsieur Martineau qui s'interroge sur le besoin d'enseigner la religion et l'éthique à nos enfants à l'école. Il sera question d'un virus géant déterré, c'est le cas de le dire, d'un devoir de lucidité envers les migrants et de l'Assemblée nationale d'une illusoire harmonie depuis qu'on a interdit d'applaudir. Et puis, je vais accueillir Christiane Campagna et sa nouvelle virale. Et dans Le Devoir, ensuite, il sera question de la campagne électorale, de la bâtonnière qui s'en va pour mieux revenir. Et on reviendra là aussi sur la fin des applaudissements à l'Assemblée nationale. Alors aujourd'hui, nous sommes donc le 16 septembre 2015. C'est toujours l'heure à laquelle je me tourne vers Mathieu Tessier pour lui demander quelle est l'éphéméride du jour. Mais avant, eh bien, je voudrais vous dire que ce 16 septembre 2015 marquera la disparition d'un homme qui, personnellement, m'a fait chanter toute petite parce que le premier 45 tours que j'ai reçu quand j'étais vraiment petite, chez ma grand-maman, c'était celui-ci.
Ma petite est comme l'eau, elle est comme l'eau vive. Elle court comme un ruisseau que des enfants poursuivent. Courez, courez, vite si vous le pouvez. Jamais, jamais, vous ne la rattraperez. Lorsque chante les...
Vous savez ce que je vous propose? On va la réécouter dans son intégralité, cette chanson-là. Tiens, à 11h exactement, juste avant que Kevin Breton ne vienne nous parler de sport. Mais pour l'instant, que voulez-vous? L'éphéméride et surtout les actualités nous rattrapent. Et je suis quand même là aussi pour ça. Donc, je voulais quand même vous annoncer la disparition de Guy Béard ce matin en France. Apparemment, il aurait fait une chute sur un trottoir. Et malheureusement, on n'aurait jamais réussi à le réanimer. Voilà pour Guy Béard. Alors bonjour Mathieu.
Bonjour Clotilde.
Comment ça va ce matin?
Ça va très bien.
On aime ça.
Hein. Oh, c'est agréable.
Alors, 16 septembre pardon, 2015, ça nous évoque quoi?
Nous sommes la Journée internationale de la protection de la couche d'ozone.
Oh, mais ça va intéresser beaucoup Stéphanie Balthazar.
Tout
qui
à vient
fait. Nous parler d'écologie.
Qui va probablement nous en parler.
C'est fort probable.
Une équipe d'astronomes européens confirme l'existence d'une exoplanète.
En quelle année, ça?
En 2009.
En 2009.
Donc, ça fait pas si longtemps que ça. Le général de Gaulle offre l'autodétermination à l'Algérie
ah oui.
en 1950.
Ça avait été.
Et sont nés un 16 septembre, B.B. King en 1925, David Copperfield en 1956, Mark Anthony, pour ceux qui ont une inclinaison vers la musique hispanophone, en 1968, et la mort de Maria Callas aussi en 1977.
Ah là là,
elle est décédée
oui.
un 16 septembre.
Un 16 septembre,
oui.
comme Guy Béard maintenant. Merci beaucoup, Mathieu.
Ça fait plaisir, Clotilde.
Merci, bonne émission. « Allez, je vous le disais ce matin, on commence par le Journal de Montréal. Alors, à la une du journal, trois gros titres. D'abord, Céline qui réalise le rêve d'un Québécois qui est atteint d'un cancer incurable. Les plaintes explosent, on parle de mauvais traitements envers les animaux et cette mort atroce, un employé de la construction qui est tombé d'une plateforme en dessous le pont Champlain. Son corps a été repêché un peu plus tard dans la soirée d'hier. Voici pour la une du Journal de Montréal. Alors, je vais commencer par ce travailleur alors, qui est donc décédé, qui est mort dans le fleuve. Il travaillait sur l'estacade du pont Champlain. Il a chuté de cette plateforme qui, pour une raison inconnue, alors qu'il s'apprêtait à la déplacer, s'est brisé d'un côté, donc évidemment, il y a eu une pente mortelle. Et comme il n'était pas attaché, bien, il est tombé dans l'eau. Son corps a été retrouvé vers 18h30. L'homme de 44 ans, dont l'identité n'a pas été révélée, il était originaire de Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Alors, il était sur cette plateforme à 10 mètres au-dessus de l'eau lorsqu'elle a cédé. Il était à peu près midi 20. L'accident est survenu alors que les travailleurs effectuaient une manœuvre de déplacement. Alors, une partie des garde-corps qui ceinturent la plateforme avait été retirée pour déplacer la structure hier. Et dans ce cas, l'employé aurait dû porter un harnais de sécurité, a mentionné l'inspectrice Cazobon, précisant qu'elle ignorait si l'homme était attaché à une partie de la plateforme qui a cédé ou pas attaché du tout. Un travailleur doit être protégé en tout temps contre les chutes, a-t-elle résumé. Et puis un autre titre en page 2 qui faisait aussi la une du Journal de Montréal. Il s'agit encore une fois de Céline Dion. Céline Dion qui a réalisé le rêve d'un homme, d'un Québécois atteint d'un cancer incurable. Il s'appelle Michel Marceau. Il avait un rêve, assister à un concert de Céline Dion. Eh bien, cet homme a eu toute une surprise lorsque, en plein milieu du spectacle, il a vu la diva se déplacer, descendre les escaliers et venir lui chanter une chanson à lui tout en le prenant dans ses bras. On sait à quel point Céline Dion peut être quelqu'un de généreux et puis surtout elle sait à quel point cet homme qui sait sa maladie incurable, elle sait ce qu'il doit souffrir dans tous les sens du terme, lui et ses proches. Alors ça a été un moment magique, Michel Marceau qui dit « Je suis encore sur un nuage ». Dans les moments aussi intenses, le cancer, la fatigue et la souffrance disparaissent pour quelques instants.
Alors je n'ai plus de doute, l'amour existe encore. Toutes mes années de déroute.
À la une aussi, triste nouvelle que de lire cela, un record de plaintes pour cruauté envers les animaux. J'ai des chiffres sous les yeux. En 2011-2016, le nombre de plaintes était de 426 et le nombre d'infractions, 26. En 2014-2015, le nombre de plaintes, 1918 et le nombre d'infractions, 45. Et on nous explique que malheureusement, c'est une situation qui va perdurer parce qu'il n'y a seulement que 15 inspecteurs pour tout le Québec. Imaginez, c'est grand le Québec. Alors évidemment, pendant ce temps-là, les usines à chiots peuvent proliférer. Je vous rappelle que le Québec a le triste record d'usines à chiots du monde. Pas du Canada, du monde. Mais avec 15 inspecteurs, hein, ils peuvent encore s'amuser à ça et gagner beaucoup d'argent en vendant parfois des animaux jusqu'à 1 000 $ chacun ou même 2 000. Alors quand il y en a déjà 7 ou 8 par portée, ben faites le calcul. Alors s'ils ont à peu près une vingtaine de races, faites le calcul aussi et vous allez vous apercevoir que pour garder des animaux prisonniers dans des cages et leur faire des petits, ben, ça rapporte. Toujours dans le Journal de Montréal, en page 6, Richard Martineau qui nous dit que lui, vraiment, il n'en revient pas. qu'on puisse encore éduquer les enfants en religion et en éthique religieuse et tout ça, alors que pendant ce temps-là, le taux d'analphabétisme au Québec atteint des records. Les cours de sexualité sont donnés par des profs de musique, par des profs de maths et par des profs de français. Et les jeunes n'ont aucune notion de base d'économie, mais ça fait rien. Il faut absolument apprendre aux enfants la légende de Glooskap. Ça, c'est une priorité, que dis-je, une urgence nationale. Ne serait-il pas temps, au contraire, dit Martineau, en cette époque de dérive sectaire et religieuse, d'apprendre aux enfants à développer un véritable sens critique, afin justement de mieux lutter contre le radicalisme, les amener à prendre le discours religieux avec un gros grain de sel, leur enseigner l'esprit des Lumières, la beauté, les splendeurs de la science, leur vanter le courage extraordinaire des hommes et des femmes qui, de Voltaire à Salman Rushdie, ont lutté avec acharnement contre l'intégrisme. On n'est pas rendu là en 2015, lutter contre le radicalisme à la source. Au cégep, il est trop tard. C'est aux primaires qu'il faut inoculer les enfants contre le virus de l'intégrisme religieux, qu'ils soient juifs, catholiques ou musulmans. Et puis, Monsieur Facal nous lance un cri du cœur, un devoir de lucidité. Il nous dit « Le petit pays d'Amérique du Sud où je suis né, l'Uruguay, qui n'est pas riche, a accueilli l'an dernier un groupe venu de Syrie. À la mesure de ses modestes moyens, l'Uruguay a voulu faire sa part. La semaine dernière, le groupe manifestait déjà son mécontentement, se plaignant qu'il n'en recevait pas assez. Un homme ajoutait « Nous voulons vivre avec notre identité selon nos valeurs ». De ce point de vue, le Canada ferait effectivement mieux l'affaire, ce monsieur peut en être sûr. Peu importe, l'habituelle machine à culpabiliser tournait à plein régime, du moins jusqu'à avant-hier. Il nous dit que certains évoquent les boat people vietnamiens des années 70. Mais pour M. Facal, c'est une risible comparaison. Ils ne demandaient qu'à s'intégrer et non à pouvoir vivre selon leurs valeurs dans des ghettos ethno-religieux. Il dit aussi, je ne suis pas contre un accueil raisonnable, encore moins contre la compassion. Je dis que l'irréalisme, un sentiment de culpabilité injustifié et le sensationnalisme photographique ne font pas une politique. Je vous rappelle que c'est un avis qui ne touche que M. Facal. Ah, j'ai une caricature ici de M. Baudet dans le journal de Montréal qui nous présente deux bouteilles de vin. Alors, la première bouteille à gauche est disponible à la SAQ. C'est un produit du Portugal avec la tête de M. Letao et ça s'appelle Château Letao. Et à droite, il y a une autre bouteille non disponible à l'épicerie. C'est le domaine Paradis avec la photo de Monsieur Paradis et dont le frère est effectivement vigneron. C'est un produit du Québec non disponible à l'épicerie. Et puis enfin, j'ai envie de vous lire quelques extraits de la chronique de Michel Hébert ce matin, chef du bureau politique à l'Assemblée nationale, qui parle d'illusoire harmonie quand on parle de la relative tranquillité qu'on devrait retrouver sur les bancs de l'Assemblée nationale. Il dit « Ne vous en faites pas, ça ne durera pas ». Le souhait de ne pas dépasser les bornes à l'Assemblée nationale, de ne plus crier ou de ne plus se chamailler, ce souhait ne survivra pas aux forces en présence. Un PQ réanimé par Pierre-Carl Péladeau, un gouvernement confronté à des défis budgétaires colossaux et des tiers-partis qui feront tout pour que les médias s'intéressent à eux avec tout ça, ça va explosé, nous dit M. Michel Hébert. Même si l'Assemblée nationale ne résonnera plus durant quelque temps du brouhaha habituel, la vénérable institution restera un champ de bataille. Ça, c'est un sujet qui revient beaucoup ce matin dans les journaux. Tous les chroniqueurs et tous d'ailleurs disent la même chose. Pas sûr que ça fonctionne. Bonjour Christiane Campagna.
Bonjour Clotilde.
Moi j'aime beaucoup cette nouvelle virale. Moi j'en mettrais une genre tous les quarts d'heure si vous aviez le temps. Non, c'est vrai parce que en plus c'est quelque chose, c'est un réflexe que je n'ai pas. Et je sais qu'on est nombreux comme ça. Moi j'ai encore le réflexe, c'est pas si une question générationnelle, mais je suis encore dans les journaux, j'ai pas le réflexe d'aller là où vous allez vous. Là.
qui veut dire que pour vous, c'est plus facile d'éviter ce qu'on appelle couramment des spoilers. C'est le terme d'ailleurs utilisé, là, j'ai regardé, autant par Richard Thérien que par Hugo Dumas dans leurs écrits, où ce que l'OQLF recommande, le terme divulgateur, c'est quand on écoute une série télé, mais qu'on l'écoute en différé. Il faut se mettre à éviter les médias sociaux si on ne veut pas connaître les punchs et les fins. Parce qu'il y a des gens qui s'en gênent vraiment, même pour des choses très importantes. Vont tout de suite dire qui est le meurtrier.
Mais c'est complètement abruti.
Oui, complètement. Et bon, il y a différents points de vue qui s'opposent là-dessus. Parce que beaucoup vont répondre, ben, dans ce cas, si vous ne l'écoutez pas en direct, l'émission, n'allez pas sur les médias sociaux.
Ouais.
Mais parfois, on n'a pas le choix. Par exemple, le mardi soir, je fais de la radio à CIBL. J'utilise les médias sociaux pour mon émission. Pendant ce temps-là, j'enregistre Mémoire vive.
Oh!
À l'époque, pendant un certain temps, j'enregistrais aussi Unité 9. Et là, j'ai arrêté, mais j'ai un peu lâché Unité 9. Mais il reste... Hier, c'est ce qui m'a donné l'idée de parler.
Vous ratez quelque chose. Hein? Hier, c'était quelque chose.
Ben voilà. Ben, je le sais. Je le sais qu'hier, c'était quelque chose. Et je le sais à cause de Twitter.
Ah.
Parce que sans même dire des punchs, ça écrivait « Oh, ça a pleuré même... » Bon, il y avait des blagues sur toutes sortes de... Des allusions au fait que l'épisode était grave, que l'épisode était triste, que l'épisode... On finit par en deviner des grands bouts.
Oh, mais moi qui suis déjà farouchement pas contre, mais non, c'est pas vrai. Parce que je reconnais, on en a déjà parlé, toute l'utilité de cela, mais tant que ça m'incite pas, voilà, bon, en tout cas.
Donc, je suis allée chercher des articles d'Hugo Dumas et de Richard Thérien sur le sujet. Ils sont pas tout à fait d'accord. Hugo Dumas est plus sévère sur la retenue qu'on devrait avoir.
Ouais.
Richard Thérien, un peu moins. D'ailleurs, certains téléspectateurs le lui reprochent de dire trop vite. De publier trop vite à propos des intrigues. Mais il dit, bon, c'est normal que la plupart d'entre nous n'apprécient pas de savoir si le gars meurt à la fin, moi y compris. La part de suspense est l'une des clés de la réussite d'une série. Là où je ne joue plus, c'est qu'il s'en trouve pour se plaindre en lisant le nom du gagnant de la voix ou des chefs dans un blog ou sur les réseaux sociaux après la fin de l'émission. Il dit, ça continue, on ne pourra plus dire le score du Canadien.
mais vous riez, mais moi, je suis une fan de soccer, OK? Je l'ai dit souvent. Et souvent, par exemple, quand il y a un championnat, il passe deux matchs dans la journée, mais évidemment pas à la même heure. Et souvent, dans le premier, ils viennent de dire « Ah, dans l'autre match, machin a marqué un but. » Sauf que moi, je l'ai enregistré, et bien je ne le regarde pas.
Ouais.
Et je suis en colère. Alors souvent, vous savez ce que je fais? Je le regarde sans le son.
Ah, c'est une solution. En fait, ce qu'il faudrait, c'est pouvoir... dans les commentaires, il y a quelqu'un qui suggérait que les gens utilisent le mot « clic », spoiler, justement.
Ouais.
Parce qu'il y a, avec certaines applications qui servent à lire Twitter, on peut... mettre sur mute certains mots-clés. Okay. Donc, on pourrait aller sur Twitter sans apprendre l'intrigue, mais il faudrait que les gens aient eu la politesse d'inclure dans leurs 140 caractères ce petit mot-clic. Par contre, à l'opposé, il semble y avoir des institutions qui ne comprennent pas encore, justement, les médias sociaux. Des galas qui sont présentés à la télé, ça arrive au Québec, avec une heure, deux heures de délai. On connaît les gagnants parce que les gens qui sont sur place... les ont tweetés.
Exactement.
Donc, faudrait... Non, mais c'est parce que présenter des... Il y a les galas américains aussi qu'on présente maintenant avec un délai au cas où Janet Jackson montrait son sein ou quelqu'un utiliserait des gros mots.
Je pense que c'est la norme maintenant.
Oui, il y a toujours un délai. Ce qui fait qu'en général, on apprend les gagnants sur Twitter parce qu'il faudrait que certains télédiffuseurs reviennent en 2015 quand même.
Mais il y a quelque chose de plate. Qu'est-ce qu'il disait, lui, Richard Thérien? Est-ce que vous nous l'avez lu, ça, ou pas?
Oui, Richard Thérien, il disait que, bon, on peut prendre toutes les précautions du monde, mais il y a des limites. Il demande aussi pendant combien de temps il faut se taire. Il y a des personnes qui accumulent des émissions sur leur enregistreur numérique. À un moment donné, ça devient des sujets de société, des sujets de machine à café, des sujets...
Moi, de toute façon, rien que pour éviter la publicité, c'est l'une des raisons pour lesquelles j'enregistre tout. J'aime mieux vous le dire. C'est exactement ça. Merci beaucoup, Christiane. Encore une fois, c'était fort intéressant. Merci. Allez, dans le devoir maintenant, vite fait, à la une, des piétons montréalais en otage, la clôture de la Discorde. C'est un petit peu surprenant que ça fasse la une, mais oui, ça fait la une. On voit un monsieur qui enjambe une clôture. Non, nous ne sommes pas entre la Hongrie et la Serbie, mais bien entre deux régions, entre Villeray et Parc Extension. Et il y en a qui passe une clôture pour traverser la voie ferrée, le nouveau processus de plainte dénoncée dans les hôpitaux et puis une lente agonie. Martine Tremblay raconte la formidable ascension et la chute du Bloc québécois dans un essai dont il sera question pendant le volet culturel de cette émission. Alors ne manquez vraiment pas ça, tout comme il sera question dans ce volet culturel de cet autre sujet qui fait la une ce matin du Devoir. C'est l'autre passion de la reine du crime, Agatha Christie. C'est passionnant. Cette femme-là était aussi passionnée d'archéologie et elle en a fait elle-même. Et le musée de Pointe-à-Calière va monter une exposition sur le sujet. Bien sûr, il en sera question à cette émission. Alors, dans le Devoir aujourd'hui, c'est impossible de ne pas aller voir du côté de la campagne électorale tout ce qui s'écrit. Alors, je me risque sûrement. Voilà. D'abord, le NPD qui nous dit, Hélène Buzetti, fait une autre promesse ciblée. Mais un expert juge que le parti sort complètement du rôle du fédéral en santé. Le chef du NPD, Thomas Mulcair, a promis mardi d'investir 25 millions de dollars par année pour réduire le temps d'attente des soins de santé mentale des jeunes. Mais certains commencent à reprocher aux néo-démocrates de s'aventurer dangereusement dans des champs de compétences des provinces avec leurs multiples annonces ciblées en santé. Alors, il créerait un fonds d'innovation, M. Mulcair, en santé mentale, doté de 100 millions de dollars pour 4 ans. Ce fonds aurait pour objectif de réduire le temps d'attente et d'améliorer les soins s'adressant en priorité aux autochtones, aux jeunes en milieu rural et à ceux quittant leur famille d'accueil. Ces promesses sont clairement de compétences provinciales, met en garde Damien Contandriopoulos, un professeur à l'Université de Montréal spécialisé dans l'organisation du système de santé et titulaire de la chaire de recherche politique Connaissance et santé. Et puis, bilingue ou pas, il y aura un débat Monk. Une part de bilinguisme vaut mieux que rien du tout pour Thomas Mulcair et Justin Trudeau. Les chefs néo-démocrates et libéraux avaient exigé que le débat Monk sur les affaires étrangères soit bilingue. Ils ont finalement accepté d'y prendre part, écrit Marie Vastel, même si l'animateur est unilingue anglophone et que la portion francophone du débat sera facultative. Également, dans le domaine des élections fédérales, Duceppe croit qu'un Québec souverain interviendrait. Il arrive dans l'histoire du monde des moments où l'on n'a pas d'autre choix que d'intervenir militairement et la situation en Syrie et en Irak est de cela, croit Gilles Duceppe, parce que c'est de cela qu'il s'agit. Le chef bloquiste pousse la note et affirme qu'un Québec indépendant aurait choisi de participer à l'actuelle mission contre le groupe armé islamique. En défendant les frappes aériennes dans cette région du Moyen-Orient, M. Duceppe adopte aujourd'hui une position différente de celle qu'il avait prise en 2003. La caricature dans le Devoir, elle est à hurler de rire. Ce sont les aventures de, non pas Lucky Luke, mais Lucky Max, le cow-boy solitaire. Et on voit M. Maxime Bernier habillé, nous sommes en plein désert, évidemment, il est habillé en Lucky Luke, Lucky Max, et son cheval, ils lui ont mis des carottes dans les oreilles à Jolly Jumper, parce que Jolly Jumper ne veut pas entendre M. Lucky Max chanter. Je précise que M. Max est à l'envers sur son cheval. Ça veut dire qu'il tourne le dos à la tête du cheval et il est en train de chanter « Faites comme nous et votez Bernier !» C'est comme le truc d'hier. Et là, il y a son chien derrière, rentemplant. Il dit « Oh là là, ce type, il connaît la musique. Hein. Je vote pour lui. » Bon, le barreau du Québec, le retour du bon sens, c'est l'éditorial de Bernard Descoteaux dans Le Devoir. La crise au barreau déclenchée par les révélations sur l'existence d'une plainte pour vol à l'étalage contre la bâtonnière Lu Changquang, tout juste élue à la tête de cette institution, se conclut pacifiquement après bien des emportements. Cette crise, dit M. Descoteaux, c'est l'exemple parfait de la comédie d'erreur qui n'aurait jamais eu lieu si les bonnes décisions avaient été prises au bon moment. La première de ses erreurs étant attribuable à maître Lu Changkwang. Au moment où elle posait sa candidature, elle avait l'obligation morale d'informer les instances appropriées, soit le conseil d'administration, qu'elle avait été l'objet en 2014 d'une plainte pour vol à l'étalage dans un magasin Simons. Obligation morale, car le poste qu'elle postulait fait partie de notre système de justice. Il dit aussi que l'ex-bâtonnière n'est pas seule à avoir commis des erreurs dans cette crise. Le conseil d'administration a agi intempestivement, ne donnant pas vraiment la chance à Maître Kwang de s'expliquer avant de demander sa démission, puis de la suspendre, ce qui ouvrit la porte à une des plus belles chicanes d'avocats que le Québec ait connues. Il aurait été facile d'en faire l'économie si les partis avaient accepté dès le point de départ de se plier à un processus de médiation qu'ultimement elles finirent par accepter pour éviter de périr de ridicule. Applaudissements bannis au Salon Bleu, le style britannique, c'est ce que nous recommande Antoine Robitaille. Je vous en parle dans quelques secondes. Alors dans Le Devoir, il écrit, M. Robitaille, l'Assemblée nationale à Québec pourrait bien être à contre-courant avec son interdiction adoptée mardi d'applaudir pendant la période de questions. En effet, figurez-vous, c'est assez incroyable, il est possible que la maire de tous les parlements britanniques, autrement dit Westminster, où les applaudissements sont interdits depuis 400 ans, décide de les autoriser. Pouf, toi! En mai, ce sont les nouveaux députés de l'indépendantiste Scottish National Party, le SNP, qui ont tenté de rompre avec cette tradition et qui ont applaudi les interventions de l'un des leurs. Le redoutable président de la Chambre, qui s'appelle John Bercow, avait alors ordonné aux Écossais de respecter les traditions de l'Auguste enceinte. Seigneur Dieu!
Ils applaudissent peut-être pas les questions, mais ça crie durant les questions, par contre.
Oui, ça crie très fort, effectivement. Ah, les élus du SNP obtempérèrent, mais depuis, ils ont osé émettre plusieurs commentaires sur l'aspect dépassé de ces règles, ce qui a conduit le président Bercow, le mois dernier, à dire que les élus pouvaient éliminer l'interdiction des applaudissements en tenant un vote sur le sujet. Car à Londres, si les élus ne peuvent applaudir, ils se permettent, comme vient de le souligner mon ami Mathieu, de produire toutes sortes d'autres sons. On vous interdit de frapper des mains comme un humain ordinaire, mais vous pouvez braire comme un âne. C'est étonné la députée du SNP, Mary Black. Toutes sortes de bruits bizarres émanent des banquettes conservatrices lors de la période de questions au Premier ministre, a-t-elle ajouté. On dirait une foule de gens ivres. Oh mon Dieu, je veux qu'on me présente ça
en
à la
plus,
télé.
Tout est vert, on a vraiment l'impression que c'est... Ils sont en train de... Ils sont dans le gazon, excusez-moi.
Hein? Ils sont dans le gazon? Enfin bon, qui sait, conclut monsieur Antoine Robitaille, peut-être que le comité de réflexion mis en place par la motion réussira à maintenir ses règles au-delà de la prochaine session et même à adopter d'autres réformes après tout. Notre Parlement de type britannique est souverain.
Plongeur de compresse aux pieds. les démarches de l'océan. Je prends le papier et confesse mes humeurs au gré du courant. J'attends le jour en grand renfort.
Bonjour à vous toutes et vous tous. Peut-être venez-vous tout juste de vous joindre à nous. C'est Clotilde Seille, mais pas toute seule. C'est Clotilde Seille, entourée de quelques-unes de ses voix de service. Bonjour mesdames.
Bonjour Clotilde.
Collaboratrice du mercredi, bonjour Stéphanie Balthazar.
Bonjour Clotilde.
Ça va bien?
Oui.
Et puis Louise Mercier.
Bonjour,
toujours
Madame
en forme,
Sey.
Toujours souriante.
Très
oh Madame Sey, j'aime ça. Ça fait tenancière de... Enfin bon, bref. Alors... Non, c'est Madame Clo qui fait. Quand on m'appelle Madame Clo, je trouve que ça fait toujours tenancière de maison mal fermée, c'est ça, maison close, exactement. Mesdames, surprenez-moi, de quoi allez-vous nous parler aujourd'hui?
Bien, moi, mes sujets se séparent en deux.
Ah?
Dans un premier temps, je vais parler de la relation entre les hommes et les animaux. En fait, pourquoi les animaux nous touchent-ils?
Ah oui!
J'adore mon chat. N'est-ce pas? Et j'adore les animaux. En fait, des fois, plus que les hommes. Donc, on va voir qu'est-ce que ça dit.
Mais le pire, c'est qu'il ne faut pas trop le dire quand on dit ça, parce qu'on a l'air de complètement des malades mentales. Mais c'est vrai que parfois, c'est plus facile de dealer
oui,
avec...
Oui, il y en a qui sont un peu plus aimables, un peu moins aimables, en fait. Et puis l'autre, c'est entre les enfants et les animaux, une relation très riche. Donc, tous les enfants autistes et tout
oui.
ça, l'aide qu'ils peuvent avoir. Et dans la deuxième partie, c'est « Peut-on vraiment changer? »
Bon, alors, je sens que je vais reprendre mon bloc-notes et mon crayon. Stéphanie, vous, ce qui vous branche dans la vie, c'est l'écologie, c'est l'environnement, oui. C'est tout ça.
Oui, et puis cette semaine, j'ai trouvé des articles qui sont très reliés avec ma semaine que je viens de passer. Donc, ouais. J'ai un article sur les compteurs intelligents, quelque chose de très intéressant à vous raconter.
Qui dit vrai, hein, c'est ça? Est-ce qu'on en saura un petit peu plus après?
Oui, premier juré.
Parfait.
Puis, on va parler un peu de pesticides, mais encore là, c'est des bonnes nouvelles ce que je vais vous raconter. Donc, c'est des choses positives, on avance. Je crois que le monde change pour le mieux.
Est-ce que vous allez oser nous dire 10 fois le mot néonicotinoïde? Parce qu'à chaque fois, moi, que je parle d'abeilles et que je tombe sur la chose, tu fais comme non! Tu vois le mot arriver, tu fais...
Non, c'est des choses très cool ce matin.
Très cool!
Très cool.
Eh bien, je suis très heureuse. Alors, mesdames, petite instru, et puis ensuite, on y va avec un premier sujet. On va décider qui commence, tiens. Alors finalement, on a tiré ça à la courte paille, c'est pour ça que ça a été un petit peu plus long. Est-ce que ça existe chez vous, ça, la courte paille, au fait?
Oui,
Bon. Et c'est Louise, c'est à Louise que revient l'honneur de commencer.
Bon, eh bien, comme je disais, le premier article que je vais lire, c'est au sujet des animaux, pourquoi les animaux nous touchent. En fait, il y a trois parties. C'est une transmission familiale et culturelle, parce que dans certaines cultures, les gens, l'amour de l'animal n'est pas tellement transmis. Ils sont moins décevants que les gens, comme on disait. Et il y a des vertus du refoulement. Donc, c'est un article écrit par Isabelle Taubes dans le site web psychologie.com. Alors, elle dit « Pendant longtemps, les animaux n'étaient considérés qu'en fonction de leur utilité. Aujourd'hui, ils suscitent en nous d'authentiques émotions et font parfois même partie de la famille. » C'est la situation de mon Bobino. En fait, je l'appelle Bobino Mercier quand je suis fâchée.
Ah oui! Ça veut sûrement dire quelque chose, oui.
Alors, qu'est-ce qui nous attire vers eux? Un vide affectif, une misanthropie galopante ou est-ce une nouvelle façon d'envisager les êtres et les choses? Alors, donc, la première partie... l'introduction, excusez-moi. Vêtue d'une jolie robe à carreaux, Fanny s'est donné la patte. Hélène, sa maîtresse, est très fière d'elle. Fanny n'est ni un toutou ni un matou, mais un iguane, un gros lézard qui, a priori, n'a rien de touchant.
Excusez-moi, qui est habillé avec la jupe? Hein? L'iguane?
Ah non, mon Dieu, c'est ça que j'avais compris.
Et l'iguane donne la main, donne la patte, en fait.
Oh, c'est affectueux, ces petites bébites-là.
C'est incroyable ce qu'on peut faire, dans le fond, là. Toute créature à poils ou à plumes capable de nous autoriser à croire qu'une relation affective est possible peut devenir notre animal de compagnie. C'est le désir d'un amour inconditionnel qui nous pousse vers les animaux. Le pire des crétins est idolâtré par son chien, qui lui reste fidèle et ne le juge pas, même quand il tire trop brutalement sur sa laisse ou le rudoie. Selon une hypothèse en vogue chez les anthropologues, nous serions génétiquement programmés pour être émus par les créatures dotées d'yeux ronds, qui poussent des petits cris et paraissent vulnérables comme nos bébés humains. De là, la tendance marquée à fondre devant les chiots et les chatons.
Et un peu moins devant les serpents, quoi qu'il y en a.
Ou les iguanes. Sauf quand elles sont habillées en robe.
Ouais. Mais c'est vrai, parce que même les oiseaux, ils ont des petits yeux, mais ils sont ronds, finalement.
Oui, et puis ils peuvent être... Je pense qu'on peut s'attacher aux oiseaux aussi.
Hein. Oui, absolument.
Et le réflexe de parler bébé avec nos compagnons à quatre pattes. Où est le gros wawa, le gentil toutou, le mignon minou, selon Dominique Guillot, sociologue et anthropologue, auteur des Chiens et des humains, cette habitude de première vue très régressive et plus rationnelle qu'il y paraît. Elle tient à ce que nous savons de la compréhension très limitée de nos compagnons, sans oublier que l'animal semble adorer ça. Alors donc, la première partie, une transmission familiale et culturelle. Pourtant, en voyageant dans d'autres pays, nous verrons fréquemment des gamins et des adultes maltraiter des animaux sans défense ou décréter qu'ils sont sales, impurs. Nos émotions sont aussi le produit d'un apprentissage, d'une transmission familiale culturelle. Peut-être faut-il avoir appris que les chatons sont mignons pour avoir envie de les câliner. D'ailleurs, des siècles de philosophie classique nous ont appris à opposer l'homme à l'animal, être inférieur, machine insensible. Non, je ne devrais pas être aussi touchée par les animaux, par leur fragilité. Je ne peux pas supporter l'idée qu'on leur fasse du mal. Ce n'est pas normal, s'inquiète Marie-Laure. Parfois, effectivement, une sensibilité débordante vis-à-vis d'eux vient compenser une incapacité à se laisser aller avec les humains, explique le psychanalyste Gérard Morel. Mais il n'y a pas forcément erreur dans l'émotion extrême face à l'animal. En sa présence, en effet, nous produisons de l'oxytocine, l'hormone de l'attachement, facteur de bien-être, sécrété dès que nous sommes entourés de gens de confiance. Selon Dominique Guillot, la thèse selon laquelle l'animal ne serait qu'un substitut, un doudou vivant pour échapper à la solitude ou réparer l'absence d'enfant, est démentie par la réalité. C'est surtout dans des familles que vivent les animaux de compagnie, des gens qui ont beaucoup d'amis et une vie professionnelle bien remplie en adoptent. Et la relation avec l'animal peut parfaitement combler, jusqu'à un certain point, nos besoins de sociabilité. Dans des moments de déprime, de fragilité, elle peut même être préférée à l'échange avec nos semblables, car face à Médor ou à Fifi, nous n'avons pas à préserver une bonne image de nous-mêmes, à faire des efforts.
Non, c'est vrai. C'est... Quand tu as le goût de brailler devant un chien, tu vas brailler, puis c'est tout, quoi, non? Mais,
puis je dirais aussi que souvent, moi, je sais que mon chat sait quand j'ai de la peine, puis il vient me coller, puis...
Comme je dis toujours, ce sont des éponges à émotions.
Oui. Alors, la deuxième partie, c'est moins décevant que les gens. Là, je dois avouer que j'adhère à ce
paragraphe. On va encore se faire des amis.
Certains gens.
Non, c'est vrai.
L'impératif moral selon lequel il faut s'occuper des humains avant de penser aux chiens dissuade d'avouer ses sentiments tendres pour le genre animal, comme s'ils étaient volés aux humains. Or, une étude récente, « Pourquoi les gens ont-ils la même tête que leurs chiens ?» de Serge Cicciotti.
Les annonces de Fido.
Nicolas Guéguen montre que communiquer avec un animal développe nos capacités d'attention à nos semblables. Et effectivement, la plupart des grands humanistes, Montaigne, Gandhi, Hugo, ont aussi été des défenseurs des animaux. Il est vrai que Brigitte Bardot s'est souvent fait remarquer par des comportements et des propos pas du tout empathiques s'agissant de ses semblables. Et les considérations misanthropes abondent dans des forums des défenseurs des animaux. J'ai honte d'appartenir à l'espèce humaine. Les humains devraient disparaître de la Terre. C'est pas moi qui dis ça, là. C'est dans les... Simultanément, l'animal est auréolé de toutes les qualités. Il est innocent, ne ment pas, ne triche pas, n'est pas cruel, gratuitement, etc. En réalité, le misanthrope est souvent un humaniste déçu, décrypte Gérard Morel. Il en veut aux hommes de ne pas se montrer digne de ses espoirs, de ne pas être aussi loyaux, fiables, en un mot humain, qu'ils le devraient. Et si certains d'entre nous sont plus émus par un oisillon tombé du nid que par un vieux monsieur qui fait un malaise en pleine rue, ce n'est pas par indifférence, bien au contraire. Le petit oiseau en détresse éveille aussitôt un réflexe de protection, affirme le psychanalyste, tandis que l'homme en danger nous terrorise. Il nous renvoie à l'angoisse de notre propre mort. Nous préférons donc regarder ailleurs. L'idée qu'en cas d'incendie, on sauvera son chat ou son chien avant de risquer sa vie pour un humain inconnu ne choquerait probablement pas le philosophe Peter Singer, penseur de la libération animale, auteur de L'égalité animale expliquée aux humains. Professeur de bioéthique à l'Université Princeton aux États-Unis, il est le promoteur de l'antispécisme, une doctrine philosophico-juridique qui prône l'égalité de tous les êtres sensibles et combat l'idée de la supériorité naturelle de l'homme.
Yay!
Oui, mais je trouve qu'il exagère un petit peu quand
même. Oui, c'est ça. Moi non plus, moi aussi, je ne suis pas complètement d'accord avec ça, mais bon, tout le monde a droit de s'exprimer. Alors...
C'est un philosophe.
Hein? C'est ça.
Selon lui, nous devons prendre en compte les intérêts de l'animal, être bien traité, respecté, vivre en accord avec ses besoins physiologiques et psychologiques, ne pas être tué pour sa viande ou sa fourrure, ne pas être exploité, car il est notre égal. C'est là que je trouve qu'il est un petit peu exagéré. En prenant quelques distances avec l'idée d'un dieu ayant octroyé à l'homme tout pouvoir sur le reste de la création et en se rapprochant de Darwin, l'homme est tel qu'il est en raison des hasards de l'évolution, les thèses de Peter Singer cessent de paraître aussi dérangeantes. Après tout, de quel droit massacrons-nous les autres espèces? Mmh. Les utilisons-nous comme des choses? Alors là, il faut que je change de page. Comme la semaine passée.
Mais moi, je me réfère toujours aux Amérindiens, justement, qui, eux, je trouve qu'ils ont une façon extrêmement saine de gérer avec les animaux, parce qu'il y a toujours un rituel pour remercier l'animal de la fourrure ou de la viande.
Exactement.
Ou encore l'agriculture. Il y a peut-être 60 ans, ma mère me racontait à quel point un porc, par exemple, était utilisé du troupignon jusqu'au bout des pattes.
Oui, 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 absolument, absolument. C'est non, c'est vrai. Puis en plus, moi ce que ça m'évoque aussi, c'est ce papier fort intéressant que vous lisez, Louise, que voyez-vous, je venais de lire dans le Journal de Montréal, ça fait la une du Journal de Montréal.
Ah oui?
Les plaintes explosent en ce qui concerne les mauvais traitements envers les animaux. Oui. Donc, parallèlement, c'est ça, quoi, qui est fou, c'est qu'il y a quand même des gens, en fait, qui n'ont aucune empathie envers les animaux, mais ceux qui n'ont aucune empathie envers l'animal, généralement, n'en ont pas plus envers
les humains.
Non, mais j'ai vu beaucoup de reportages où est-ce que des meurtriers aux États-Unis en prison pour le reste de leur vie, qui s'occupent de chiots et qui deviennent, pour la première fois de leur vie...
Des agneaux.
Il y a quelqu'un qui les a aimés et qui se sent aimé et
exactement.
Tout ça. Donc, je pense qu'il y a vraiment tout un continuum de relations avec les animaux.
Alors, je ne sais pas où vous en êtes du tout. C'est parce que je vois l'heure tourner. Est-ce qu'on va avoir du temps pour ma petite camarade aussi à gauche?
Coucou. Tout à fait.
Tout à fait, yes. Bon, alors, c'est une merveille.
Il me reste seulement les vertus du refoulement.
D'accord, parfait.
Alors, nul n'a jamais lancé de mouvement en faveur des scorpions, des blattes ou des mouches.
C'est très bon.
En dehors des écologistes militants, peu de gens se soucient vraiment du sort des thons. En effet, nous sommes d'autant plus touchés par un animal qu'il déclenche en nous une émotion esthétique. Nous admirons les grands fauves pour leur beauté et leur puissance, mais nous sommes encore plus émus face à eux quand nous les savons en péril. La baleine qui nage avec son petit nous semble d'autant plus majestueuse et touchante qu'elle est la proie des pêcheurs. En voyant l'ours blanc prisonnier de sa banquise qui fond par notre faute, nous oublions qu'il pourrait nous massacrer d'un coup de griffe. Surtout que ce spectacle s'est essentiellement mis en scène avec de belles images à la télévision que nous le contemplons. Mais comment pouvons-nous continuer à nous repaître de petits veaux, agneaux, poussins, mignons, attendrissants? En fait, le refoulement, opération psychique qui consiste à enfouir dans l'inconscient les images trop perturbantes, nous protège si bien de la culpabilité qu'en mangeant une escalope, nous oublions totalement que nous sommes en train de dévorer un animal. Une preuve supplémentaire du génie humain?
Oui. Non, c'est une bonne conclusion, effectivement. C'est très, très, très paradoxal, tout ça. Stéphanie, vous êtes prête à nous faire cette première lecture est sur quoi? Sur les
compteurs intelligents.
Ah, ça, j'ai bien hâte.
Oh, oui.
Alors, les compteurs intelligents, complètement imbéciles, disent les uns, complètement intelligents, disent les autres, surtout dangereux ou pas. Enfin, j'ai hâte que vous nous en parliez.
Ah oui. Mais écoutez, l'idée de cet article, ça part du fait que moi, en novembre passé, j'ai fait la requête pour enlever le compteur intelligent chez moi, parce qu'il est carrément au centre de ma cuisine. Puis,
Attendez, excusez-moi, comment ça, au centre? Il est à l'intérieur?
Oui, mon compteur est à l'intérieur chez moi, puis il est sur le mur devant ma table de cuisine. Donc, oui, c'est un petit appartement dans Rosemont, donc on s'imagine un peu.
Je ne savais pas que ça pouvait être.
Ben oui, moi, non, c'est ça, moi non plus.
Oui, c'est carrément à l'intérieur, puis jusqu'à la fin décembre, je crois, on pouvait demander le retrait pour 15 $. Maintenant, c'est 85. Mm-hmm. Puis, du moment qu'on demande le retrait, par la suite, il y a 5 $ par mois qui est ajouté. Alors, novembre passé, moi, je fais la requête, puis je me dis, bon, je vais payer, j'en ai rien à cirer. J'ai le compteur dans le visage, tu sais.
Mais oui.
Puis, la dame d'Hydro-Québec est venue hier.
Oh!
Un an plus tard, pratiquement un an plus tard. Donc, je me dis, youpi, au moins elle est passée. Puis, après qu'elle soit passée, je suis tombée sur cet article fascinant. Monsieur André Fauteux, éditeur et rédacteur en chef du magazine La Maison du 21e siècle, a écrit le 24 mars « La nocivité des compteurs intelligents reconnus en douce par la Californie ». Alors, on s'entend que les gens... Les gens le savent, mais bon, il y a beaucoup de compagnies, il y a beaucoup de gens qui sont reliés à ça. Alors, les gens devenus intolérants aux champs électromagnétiques, qu'on appelle les CEM, devraient pouvoir conserver leur compteur électromécanique analogique plutôt que de se faire imposer un compteur intelligent électronique. Émetteur de radiofréquences, avoué en 2010, l'ancien président de la Commission des services publics de la Californie dans un courriel saisi grâce à un mandat de perquisition. Je ne sais pas si vous vous rappelez le scandale Enron, il y a peut-être plusieurs années.
Oui, bien sûr. Oui.
Alors, la Californie, surtout avec son système d'électricité, est toujours un peu sous la... sous la lampe. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est ça. Depuis le début de leur déploiement en 2006, un peu partout dans le monde, les gouvernements et les services publics d'électricité, d'eau et de gaz ont toujours prétendu que les compteurs numériques dotés d'une puce antenne qui transmet les données de consommation par l'intermédiaire d'ondes radio ne présentaient aucun danger pour la santé publique. Et ce, malgré les milliers de plaintes d'usagers et de médecins qui rapportent une foule de cas symptômes d'hypersensibilité électromagnétique aggravés ou apparus après l'installation de ces émetteurs de micro-ondes pulsées. C'était une très longue phrase.
Oui, mais bravo. Mais, on vous a très bien suivi.
Parfait, merci. Alors, c'est ça, il y a beaucoup de choses qui se passent depuis que les compteurs sont là. Alors, il y a eu une demande d'enquête indépendante. Depuis l'aveu de Michael Peavy, le président de l'Association québécoise de lutte contre la pollution atmosphérique, André Bellil redemande avec insistance une enquête de santé publique indépendante basée sur ces nouvelles informations et révélations. Parce que qu'est-ce qui s'était passé aux États-Unis? C'est que dans un courriel, on pouvait lire « Si c'était ma décision, je laisserais n'importe qui le désirant conserver son vieux compteur analogique s'il prétendait être affecté par les champs électromagnétiques ou souffrir d'un autre problème de santé lié à l'électronique et pouvant produire une lettre de médecin l'affirmant. J'instituerais une telle politique discrètement et seulement sur une base individuelle. Alors, quand on trouve un courriel comme ça d'un président, d'un président d'entreprise aux États-Unis, on se dit, ben là, il y a Anguille Souroche.
Oui.
Alors, on essaie de faire passer, justement, une demande d'enquête au Québec. Et puis, en Californie, ce qui s'est passé après cette mini-enquête-là, depuis 2012, eux aussi ont l'option de retrait, environ au même prix qu'au Québec. Puis, qu'est-ce qui se passe? C'est la première étude médicale qui a été faite, vraiment. Les compteurs intelligents furent installés pour la première fois en 2006 en Australie. C'est là qu'un médecin de famille de Melbourne, Frédérica Lamech, a récemment signé la toute première étude médicale au monde portant sur les effets sanitaires, aggravés ou apparus après l'installation de ces appareils. Son étude fut publiée le 20 novembre 2014 dans la revue scientifique Alternative Therapies in Health and Medicine. Elle a analysé les principaux symptômes dont se plaint 92 résidents de Melbourne sur le site Stop Smart Meters Australia. Parmi ces 92 personnes, 48 % se plaignaient de problèmes de sommeil, 45 de maux de tête, 33 d'acouphènes et autres bruits dans les oreilles, 32 % de fatigue et 30 % de troubles cognitifs, comme des problèmes de concentration, d'orientation, de mémoire. Le même genre de symptômes dont souffrait cette femme médecin. Alors, pour terminer, selon ce docteur, ces symptômes recoupent presque entièrement ceux rapportés en 1972 par le chercheur de la marine américaine Zorak Glazer dans une recension de 2300 études portant sur les effets biologiques associés à l'exposition aux radiofréquences. Mm-hmm. Alors, ça fait longtemps qu'on connaît le problème. Il y a justement cette médecin à Melbourne qui a réitéré sur le sujet. Mm-hmm. Au Québec, on le sait, puis en Californie, grâce à cette enquête, il y a maintenant une preuve qui est accessible, qui est tangible, qui est là, que les radiofréquences sont très nocives pour la santé.
Mais moi, là, je voudrais lancer un petit pavé dans la mare, là, comme il nous reste une minute ou deux, parce qu'il me semble qu'à chaque fois qu'il y a eu comme ça une avancée technologique, je pense à la télévision, je me rappelle, nous, chez nous, quand la télévision est arrivée dans nos maisons, je me souviens même des papiers qui disaient « Attention, vous allez devenir aveugle » ou des choses comme ça. Alors, je ne réfute pas, évidemment, qui suis-je, moi, mais je me demande juste, est-ce qu'on n'est pas en train de paniquer, surtout que on n'a pas que ça. Il y a le micro-ondes, puis finalement, on a appris que le micro-ondes, c'était peut-être pas si pire. On est entouré par les Bluetooth et autres Wi-Fi. Et tout ça, maintenant, c'est dans nos maisons. Et ça, on n'en parle pas du tout. On ne parle que des compteurs. C'est pour ça que
je suis un petit peu d'accord. Il y a aussi les téléphones intelligents. C'est encore sous recherche à savoir si c'est néfaste. Puis moi, ce qui m'intrigue un petit peu de l'article, c'est, oui, ils ont trouvé tous ces symptômes-là, mais est-ce que ces gens-là en souffraient avant ou pas?
J'imagine. Ça s'est aggravé, comme disait le docteur.
D'accord.
Donc, certains, ça l'a apparu, vous avez raison. D'autres, ça s'est aggravé, puis d'autres, c'est complètement... c'est sûrement déjà là auparavant. Mais voyez, ils font la mention aussi à la fin de l'article. Les gens passant plusieurs heures par jour à moins de 10 pieds d'un compteur intelligent. Puis en ce qui a trait justement au téléphone cellulaire, Internet, c'est un peu la même chose. La tête est carrément à côté du routeur ou du compteur, on s'entend que, bon... Il peut avoir des effets à long terme.
Non, c'est important de mettre le Wi-Fi loin d'où on dort.
Oui, mais oui, c'est vrai. Mais en tout cas, tout ça est fort intéressant et éclairant quand même. Il y a des choses qui existent et qu'on ne dit pas. Et ça, il y a tellement de sujets comme ça, entre autres dans le domaine de la diététique ou autre. Il y a tellement de choses qui se savent, mais qui ne sont pas dites parce qu'il y a sûrement de l'argent à faire quelque part.
Exactement.
Aussi,
ouais.
On s'entend que c'est toujours le nerf de la guerre. Merci beaucoup, Stéphanie. Merci beaucoup, Louise. Et là, je suis contente parce que je ne vous dis pas au revoir tout de suite. On va encore passer une petite demi-heure ensemble. Restez des nôtres. Après, vous allez nous parler d'eux, Stéphanie. Rapidement.
Un gangster jardinier.
Un gangster jardinier, vous, Louise Mercier? Peut-on changer vraiment? Restez des nôtres! Les voies de service, ça se poursuit avec Clotilde Seyss, Stéphanie Balthazar et Louise Mercier. Alors, après cette petite pause de 2 minutes bien méritée, ça passe vite, hein?
Deux minutes. Ça passe vite.
Allez, on retourne, on y va, tiens, avec Stéphanie.
Ah, d'accord.
Allons-y.
Alors, une toute petite nouvelle sur le site bioalaune.com qui a été publié le 14 septembre. Mm-hmm. Donc, on parle aux États-Unis, un gangster jardinier plante illégalement des légumes bio pour manger local. Moi, je trouve ça fantastique.
Attends, il plante illégalement. Pourquoi? Alors, voilà, c'est ça.
C'est ça qui est très intéressant.
On ne peut plus planter ses choux chez nous.
On ne peut plus. Non, c'est ça.
Essayez de la dire, celle-là, sans bafouiller. On ne peut plus planter chez nous. Voilà.
C'est ça, ça ne marche pas.
Pas deux fois.
Alors, aux États-Unis, un gangster jardinier plante illégalement des légumes bio pour manger local. Dans le quartier de South Los Angeles, les rues sont envahies par les fast-foods et l'obésité ne cesse de croître. Pour changer cela, Ron Finley a décidé de faire pousser illégalement des légumes bio dans toute la ville et retrouver son autonomie alimentaire. Alors lui, il s'est dit, dans mon quartier, on trouve des magasins de vin, une multitude de fast-food, des soi-disant gangsters, mais là-bas, on ne meurt pas à cause des balles, mais à cause de la malbouffe. Mmh. Alors, tu sais, comme 26,5 millions d'Américains, les habitants du quartier vivent dans un désert alimentaire où ils n'ont pas accès aux aliments sains. Mm-hmm. Ça, c'est quelque chose qu'on oublie des fois, l'urbanisme, comment ça peut être fait pour nous empêcher d'avoir accès. Pour bénéficier de produits sans pesticides, ils doivent s'armer de courage et parcourir plusieurs kilomètres en voiture. Mais c'est pas tout le monde qui a accès à une voiture déjà. Donc, Monsieur Finley dit, « Le potager, c'est mon graffiti, je fais pousser mon art. » Face à ce constat, Ron Finley a décidé d'agir en devenant un gangster jardinier. Avec son association LA Green Grounds, ce dernier s'est mis à planter des potagers illégaux un peu partout dans la ville, aussi bien sur des terrains vagues que sur le bord des trottoirs. Une initiative qui donne l'opportunité à tous de manger sainement. C'est aussi une occasion pour cet enfant du quartier d'embellir le paysage urbain. À sa manière, comme un artiste de graffiti qui embellit les murs, moi, j'embellis les pelouses et les côtés des routes. Alors, qu'est-ce qui... Moi, il me fascine, M. Finley, et je le trouve bien parce que non seulement, justement, il fait pousser des légumes, mm-hmm. il donne accès à quelque chose qui est de base, puis il aide à contrecarrer les coups de chaleur dans la ville, étant donné qu'il oui. y a plus de verdure. Oui. Alors, je veux dire, cet homme-là, il devrait être engagé par Los Angeles pour Exactement. Continuer à faire ce qu'il fait, donc...
Mais pour les bonnes raisons. Et les bonnes lui. Raisons, ce sont celles que vous venez de dire. Oui. Pas pour contrer contre la malbouffe.
Oui, 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 oui.
Parce qu'il y a un paquet de gens là, qui passent devant ces restaurants-là puis qui n'en mangent pas.
Je suis d'accord avec vous, c'est vrai.
Et qui ne prennent pas de poids, mais il y a aussi beaucoup de gros qui ne mangent pas de cette bouffe-là ouais. et qui sont gros quand même. Parce ouais. que quand tu bouffes un bol de quinoa aux amandes, si tu en manges une coupe, ça va. Si tu manges le bol, tu vas grossir. Ouais, et non. pourtant, c'est santé. Alors, il ne faut pas...
C'est
non, mais
non,
c'est vrai
d'accord.
qu'il y a des amalgames. Qui... Mais merci beaucoup. Si, je suis très contente de savoir qu'il y a un gang. Merci.
Oui, un gangster jardinier.
Question existentielle ce matin, mes amis. Est-ce qu'on peut changer? Et quand l'autre te dit, ben là, tu sais, va falloir que tu changes, ou sinon, je crie, en tout cas, je m'en vais. Est-ce qu'on peut changer? Louise Mercier, je me tourne vers vous.
En fait, on a eu la réponse à la question, est-ce qu'on peut changer l'autre? Et c'est non. Donc,
oui,
est-ce qu'on peut se changer? J'ai deux articles, deux points de vue, pas nécessairement opposés, mais donc, peut-on vraiment changer? C'est Nathalie Rapaport Hopschmang, qui est une docteure une psychothérapeute. Donc, une des grandes questions de la psychologie moderne tourne autour du changement. Est-ce que l'on peut vraiment changer? Être moins sensible, plus serein, plus à l'écoute, plus performant, plus optimiste ou plus heureux? C'est surtout ça, je pense, qui est intéressant. Oui. La QV 2013 nous a apporté son lot de bonnes nouvelles. De plus en plus, il paraît clair que l'optimisme, la capacité à être heureux, ces caractéristiques ou traits de personnalité qui paraissent auparavant fixés et définitifs, sont en fait des compétences que l'on peut acquérir si on le souhaite et si l'on s'en donne les moyens. Donc, elle répond oui. Le premier message fort des recherches en psychologie publié en 2013 est lié à ce qu'on appelle l'épigénétique, c'est-à-dire le fait que nos gènes, loin d'être les seuls responsables de ce que nous sommes, sont en fait modulés par l'environnement dans lequel nous vivons, par les choix que nous faisons, par ce que nous pensons, ce que nous ressentons. Il ne tient donc qu'à nous d'infléchir la trajectoire de notre héritage génétique en décidant, tout comme nous prenons soin de notre alimentation, comme on vient de parler avec Stéphanie, de prendre soin de ce qui se passe dans notre tête et notre corps, d'apprendre à connaître nos pensées et nos émotions. Le deuxième message fort est qu'il est possible d'être plus optimiste, d'être plus heureux. Loin de l'image d'un bonheur béat tel qu'il peut être présenté dans les publications à grand tirage, je pense que ça ne fait même pas heureux, mais bon. Les travaux issus de la psychologie positive cherchent à comprendre et affiner les voies grâce auxquelles il est possible d'apprendre à vivre mieux. Tout comme il est possible de travailler notre condition physique, nous savons dorénavant qu'il est possible de travailler notre condition mentale et que cela passe par un travail sur soi que l'on peut faire seul ou en étant aidé. Enfin, notre cerveau, qui a spontanément tendance à se focaliser sur le négatif, peut en effet apprendre à être plus réceptif à la positivité, apprendre à focaliser notre attention sur ce qui va, à faire durer les émotions positives, à faire du bien aux autres et à soi. On l'aura compris, il est possible de changer en mieux. Donc, yeah! c'est la meilleure des nouvelles.
Moi, j'ai une question pour vous, mesdames. Est-ce que le naturel, un jour ou l'autre, ne reprend-il pas le dessus?
Ben, je pense que c'est d'apprendre à gérer le retour du naturel fait toute la différence.
Oui. Louise, qu'est-ce que vous en pensez?
Je pense que oui, mais je pense que comme quand on prend une habitude, ça prend 21 jours à acquérir une habitude. Une fois que c'est fait, le naturel revient, mais un peu moins fort.
Oui, un peu moins au galop, un peu plus au pas, quoi, finalement. C'est ce que vous êtes en train de nous dire. Merci beaucoup. Je vais me retourner vers vous.
Thank you.
Stéphanie, alors.
Oui. Alors, c'est très informatif, mais je crois que tout le monde va apprécier l'information. Sur le site de David Suzuki, que j'aime beaucoup, il y a une fiche informative sur les plastiques par numéro. Alors, de quoi je veux parler? Quand on achète une bouteille d'eau, quand on achète un emballage, il y a toujours dans un petit triangle un petit chiffre.
Oui, que je regarde jamais, oui.
Mais on aimerait savoir ce que ces petits chiffres-là veulent dire.
Oui.
Et je vais vous le dire, ce qu'ils veulent dire.
Bon, allez, on
alors,
prend des
on
notes.
A de 1 à 7, puis il y en a qu'il ne faut absolument pas réutiliser et d'autres qu'on peut réutiliser. Donc, très rapidement, le 2, le 5, on peut les réutiliser, on nettoie, on reprend et tout.
Le 2 et le 5, le 2 on et le peut 5, réutiliser.
C'est bien. Oui, le 2 et le 5, c'est bien. Le 1, le 3, le 4, le 6 et le 7... On utilise une fois et on jette. La plupart de ces produits-là, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'ils peuvent laisser des produits toxiques dans la nourriture avec laquelle ils sont en contact.
Ben, on jette, on les met au recyclage.
On les met au recyclage. D'accord. Oui. Mais il faut faire attention. Et si vous voyez le chiffre 6, évidemment, essayez de rester très loin de ça. C'est le polypropylène. Souvent, la viande est dessus. Et ça, ça relâche des produits toxiques dans votre nourriture. Alors, très vite, 2 et 5, on y va, on achète, on réutilise, on nettoie. Tous les autres, plus loin, c'est mieux.
Et je me tourne à nouveau vers Louise Mercier. Louise, un autre sujet.
En fait, c'est le même sujet.
Bon, alors, on remonte la musique et on recommence. Non, c'est pas vrai.
Alors, c'est un autre point de vue sur le fait de « est-il possible de vraiment changer? » Parce que je trouve que c'est...
C'est vrai que vous aviez dit qu'il y en avait deux.
Exactement. Alors, je trouve que c'est quelque chose qui est vraiment dans l'air, parce qu'on essaye tous d'être mieux, de s'améliorer et tout ça, puis on se demande si le résultat est atteignable, finalement. Alors, j'ai pris ça dans un blog qui s'appelle « Développement personnel ». Et ce mois-ci, dans « À la croisée des blogs », le thème imposé est « est-il possible de vraiment changer? » Et je me suis donc prêtée à ce petit exercice sur ce sujet classique du développement personnel. Si je devais résumer ma réponse en quelques mots, ce serait « encore heureux, bordel ».
C'est bien ça.
J'aime ça.
Imaginons que vous êtes coincé dans un domaine de votre vie, argent, relations ou travail, les astrologues n'ont rien inventé, et que vous devez changer quelque chose, pensez-vous pouvoir le faire? Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde. Ça, j'aime beaucoup cette...
Gandhi.
On est responsable de notre énergie.
C'est Gandhi qui a dit ça?
Je pense que oui. Ouais. Ça se peut, je me trompe.
Je sais pas, là, il n'y a pas de...
Mais c'est pas grave.
C'est un classique.
C'est pas grave, Louise.
Changer est facile et instantané. Ce qui est long, c'est le processus avant, ce qu'on appelle développement personnel. Notre monde moderne nous pousse souvent à croire que changer est impossible. Changer, ce n'est pas aller chez le psy et espérer se faire réparer. On n'est pas des voitures, finalement. Ce procédé est long, coûteux, et il faut encore que vous souhaitiez changer pour avoir une chance que cela marche. Le changement est un instant, une décision ferme poussée le plus souvent par le refus de quelque chose. Nous savons instinctivement que ce que nous ne voulons pas, mais la plupart d'entre nous ne sait pas ce qu'il veut vraiment. Il n'y a donc pas de pilule miracle, mais pour autant, changer se fait en un instant lorsque les conditions sont réunies. C'est un point de départ, fuir ce que l'on ne veut pas. L'alcoolique qui ne veut pas finir malade, le fumeur qui veut voir grandir ses enfants, le salarié qui veut accomplir son potentiel, le célibataire qui veut une vie de couple, le pauvre qui ne veut plus demander de l'argent, tous vont cheminer tranquillement jusqu'au jour où ils décident le changement. Vous avez certainement eu dans votre entourage le cas d'un ami que vous avez toujours connu célibataire et qui un jour vous présente sa copine. Vous connaissez peut-être des gens qui finissent leur mois dans le rouge et un jour vous présentent leur épargne de précaution. Occupez-vous du pourquoi et le comment se résoudra tout seul. Ça, je trouve ça, c'est vraiment une belle indication.
Occupez-vous du pourquoi et le comment.
Pourquoi vous voulez changer et le comment se résoudra tout seul.
Oui, c'est vrai que c'est une excellente formulation.
Celui qui espère et croise les doigts n'éprouve pas assez de douleur pour changer. Donc, si on est ça carrément à la fortune, ça ne fonctionnera pas. Si vous vous plaignez de ne pas avoir assez d'argent, il est fort probable que le manque d'argent n'est pas suffisamment douloureux pour que vous agissiez. Si votre supérieur est un con, mais que vous avez besoin de votre poste, car vous tenez à votre style de vie, vous allez encaisser le problème sans rien changer. Si la douleur devient intolérable, la question ne sera plus pourquoi changer, mais comment changer. Êtes-vous prêt à encaisser la douleur pendant longtemps? Ne gaspillez pas votre temps à chercher comment changer, trouvez pourquoi le faire. Changer est possible, heureusement. Dans le couple, on dit souvent qu'il ne faut pas essayer de changer l'autre, et c'est très vrai. Le changement vient de soi, pas d'une injonction extérieure qui aurait même tendance à renforcer le comportement que l'on souhaite voir disparaître. Il faut accepter la responsabilité du changement ou du non-changement, et celle-ci ne peut être que personnelle. Alors, on ne fait pas boire un âne qui n'a pas soif. L'un des grands risques lorsqu'on écrit un blog...
Est-ce que c'est de Gandhi, ça?
Non, je pense que lui, il avait dit un cheval. lorsqu'on écrit un blog sur des sujets comme l'argent ou lorsqu'on est passionné par un domaine, c'est de vouloir changer les gens malgré eux. Honnêtement, ce n'est pas ma nature et c'est pourquoi j'ai tendance à avoir une approche distante avec mon propre blog. Je n'espère pas que tout le monde va correctement gérer son argent et vivre une meilleure vie et je n'irai pas essayer de convaincre tous les passants qu'il faut agir et s'éduquer financièrement. Le changement doit venir de la personne, celui qui n'a pas peur de lire un livre, suivre un séminaire, faire des recherches sur Internet, parler aux gens. Celui qui est actif mérite le changement et l'obtiendra. Il n'a jamais été aussi facile de s'informer, pourtant l'ignorance est encore à la source de nombreux blocages. Mmh. Alors, est-il vraiment possible de changer? Oui, j'en suis convaincue. Ce n'est pas pour autant que l'on oublie ou que l'on renie le comportement précédent, mais celui-ci deviendra une base, une référence qui montrera le chemin parcouru. Il servira à mesurer le progrès effectué. Alors, l'objectif est fort et grandiose et permet de garder le cap.
Merci beaucoup, Louise. Merci.
J'ai mauvais caractère, peut-être même un peu cruel. Un fichu caractère, je suis un caractériel. Déjà quand j'étais petit, je trivais mes amis. J'ai donné des ulcères à mon père pis ma mère. J'ai acheté un pitbull, même lui m'endurait pas. Il se livrait lui-même à la SPCA. Hey! Hey! Trop mauvais caractère, je vais changer de profession, je vais devenir mercenaire au bain gardien de prison. J'ai mauvais caractère, surtout quand je viens de me lever. Pour me calmer les nerfs, j'avale 40 cafés. J'ai jamais pu garder une femme à mes côtés. Après une heure et quart, elle se rhabille pas, prend le bord. Un soir pendant un show, y'avait un grand nono. Il parlait un peu fort, il a mangé ma guitare. Hey! Hey! J'suis tanné de me faire la gueule, j'peux même plus m'endurer. Laissez-moi pas. J'ai mauvais caractère. Mmh.
c'était les colocs qui avaient mauvais caractère. Et vous retrouvez les trois voix de service pour le moment que sont Louise, Stéphanie et Clotilde avec vous sur les ondes de Canal M. Nous n'avons pas du tout mauvais caractère.
Non,
jamais.
Nous, ça va.
Louise, vous jamais.
Jamais.
Moi non plus. Et vous non. Bon, bah alors, c'est le bonheur. Je me tourne vers vous, Stéphanie. Vous avez encore un papier là, à nous proposer.
toujours.
Elle rigole.
Oui. Alors, sur environnementmagazine.fr, il y a une nouvelle à l'international qui, bon, pour les gens qui aiment l'environnement, suivent beaucoup ce genre de choses. Alors, tout le monde a entendu parler de Monsanto. C'est les méchants qui font les pesticides et puis qui polluent toute la planète et que personne aime. Puis bon. Alors, évidemment, comme toute bonne multinationale, c'est difficile. On sait on se doute qu'il doit y avoir quelque chose de pas net, mais de là à ce que ce soit avoué ou prouvé ou machin, là, c'est plus difficile. La bonne nouvelle, c'est que il y a un premier pas qui a été fait dans la bonne direction. Ah. Alors, je vous explique. Il y a de ça quelques années, il y a un Français, M. Paul François, plus précisément le 27 avril 2004. Alors, c'est un agriculteur et puis il a le pesticide qui se nomme Lasso par Monsanto. Puis, alors...
Ça n'a rien à voir avec le parmesan, évidemment.
Non.
C'est Lasso. En tout cas, excusez-moi, c'est comme une, non, comme une image qui m'est venue en tête comme ça.
C'est parfait. Alors, malheureusement pour lui, avec la chaleur et tout, bref, le produit en tant que tel, le pesticide, a fait comme des vapeurs, puis il a inhalé accidentellement les vapeurs.
Ouais, ça, c'est vraiment pas drôle.
Et alors... Depuis, il a été reconnu comme accidenté du travail et aujourd'hui, il souffre encore de troubles neurologiques et immunitaires qui auraient été causés par ces inhalations-là. Alors, le produit controversé, soit le Lasso, est interdit au Canada depuis 1985, Dieu merci, n'a été retiré du marché français qu'en 2007. Alors, l'agriculteur charentais a alors assigné Monsanto devant le TGI de Lyon en 2010. Dans une décision du 13 février 2012, le tribunal lui a donné gain de cause en reconnaissant la responsabilité de la firme américaine dans le préjudice subi par Paul François suite à l'inhalation du pesticide Lasso et l'a condamné à l'indemniser entièrement. Alors, le tribunal retenait notamment que l'étiquette du produit en cause ne mentionnait pas la quantité des substances toxiques et qu'aucune information relative aux précautions d'utilisation ne faisait état des risques liés à l'inhalation du produit ou à la nécessité de porter un appareil de protection respiratoire. Alors, comme vous pouvez le constater, c'est quand même quelque chose de gros.
Première.
Parce que, justement, ce manque d'information-là est souvent l'argument par lequel les multinationales vont pouvoir trouver une porte de sortie. Mmh. Alors qu'un tribunal français ait remis à jour, si on veut, les responsabilités des multinationales, moi, je jubile de joie.
Mais oui, c'est vraiment une première.
Donc... L'avocat de Paul François a précisé aux médias ce jeudi que cette décision ouvrait une brèche importante dans la responsabilité des fabricants de pesticides. On ne peut que se réjouir de l'issue de cette affaire qui encourage l'amélioration de l'information des consommateurs et responsabilise les fabricants de produits toxiques quant à la préservation de la santé et de l'environnement.
Louise Mercier, de votre côté.
Alors, je reviens avec Nathalie Rapaport qui nous explique que savourer les petits moments de bonheur, quelques conseils de dégustation des émotions positives.
On aime ça.
Alors, de quelle façon abordez-vous un bon verre de vin? L'avalez-vous rapidement, vous disant « pas mal, très bien, passons à autre chose » Cela paraît fort peu probable. J'imagine plutôt que vous faites attention à ce que l'on verse dans votre verre. Si vous êtes vraiment un amateur, vous interrompez peut-être même votre conversation pour admirer la robe du vin que l'on vous sert, pour faire légèrement tourner votre verre, pour le porter à vos lèvres, en prêtant réellement attention à ce que vous mettez en bouche.
Oui, ça dépend du vin. Si c'est du vin de l'auberge, moi, je le donne aux plantes, alors.
Ah, mais là, on parle de dégustation.
Oui, on parle de très bon vin. Oui.
Un excellent créma, par exemple, on fait tout ce que madame vient de décrire.
Voilà.
Ensuite, il est probable, si vous avez choisi ce vin avec d'autres et qu'il vous a plu, que vous le commentiez. Oui, il est pas mal, il est très bon. Bof, un peu décevant, mais laissons-lui encore un peu de temps. Il va peut-être s'ouvrir. Plus tard, vous repenserez à ce que vous avez apprécié et vous direz peut-être « Tiens, ce Bordeaux, ce Bandol, il était vraiment agréable. Il allait très bien avec... » Qu'est-ce que cela a à voir avec le bonheur et les émotions, me direz-vous? Eh bien, beaucoup plus qu'on ne le pense. ce que vous faites avec ce vin, et cela pourrait d'ailleurs être avec tout autre aliment qui mérite d'être dégusté, un bon chocolat, un thé, c'est simplement d'y prêter attention et de prendre le temps de le savourer. C'est finalement ce que nous devrions faire avec tous les bons moments de la vie, même les plus infimes. Nous en réjouir à l'avance, y prêter attention et les savourer lorsque nous y sommes. Ne pas oublier de nous les remémorer ensuite et surtout, tenter de prendre conscience des petites bouffées de bien-être que nous ressentons plutôt que de nous précipiter immédiatement à la recherche du prochain plaisir.
C'est très, très bien. Je suis très heureuse que vous ayez lu ça. Je me souviens, à un moment donné, j'avais lu ça dans un livre, j'avais trouvé ça brillant. C'était dans un bouquin de Mathieu Ricard, je pense.
Ce moine.
Et qui disait, il n'y a rien de plus plate que de faire la vaisselle. Et souvent, finalement, c'est pour ça qu'on laisse un petit peu s'accumuler. Alors que finalement, lorsqu'on est dans le moment présent et qu'on prend soin, un petit peu comme le verre de vin, de laver son assiette, rien que le fait de la rendre propre, c'est quelque chose d'heureux. Et tout d'un coup, lorsque vous vivez le moment présent à faire la vaisselle, tout d'un coup, le moment de faire la vaisselle que vous avez mis de côté, vous avez procrastiné là-dessus. Parfois, il y en a qui procrastinent pendant 2 semaines. Alors que finalement,
ça peut devenir agréable.
Ça peut devenir agréable, surtout avec une bonne musique en fond sonore, comme celle que mon ami va nous mettre maintenant. Et à ce moment-là, voilà, très bien. Ça fait bien la vaisselle, ça. ça vous nettoie des casseroles, monsieur. Ça. Oh là là! J'ai une bonne nouvelle pour vous qui aimez l'écologie et l'environnement. Figurez-vous que c'est dans le Journal de Montréal ce matin, des milliers de dollars ont été investis pour sauver la population des tortues des bois du Témiscouata Madawaska. Ça vous fait plaisir?
Oui, énormément.
Vous en connaissez quelques-unes?
Oui,
voilà.
Je viens de chez tous les dimanches.
Le chantier de l'autoroute 85 vient en effet perturber l'habitat de cette espèce menacée. Eh bien, un programme de repeuplement a été mis sur pied.
Youpi.
Ce petit animal qui vient compliquer les travaux de l'autoroute 85 parce que le tracé empiète sur 25 hectares d'habitat de la tortue des bois, nous dit-on ici. Et depuis 2012, le ministère multiplie les efforts pour préserver cette population menacée. Il y a des chiens pisteurs de l'Université de Dalhousie en Nouvelle-Écosse qui ont entre autres été utilisés afin de localiser les nids de tortues. Et puisque l'habitat des tortues est perturbé par une route provinciale, c'est Transport Québec qui finance ce programme. Selon la biologiste, une centaine de milliers de dollars ont été investis et les deux ministères sont en pourparlers afin de s'entendre sur le financement à venir. Et une petite brève à ma gauche.
Connaissez-vous les isothiazolinones?
Ça, c'est un muscle que j'ignore certainement, mais que je... Non, je ne sais pas.
Alors, ça peut être utilisé dans toutes sortes de crèmes, de lotions, de produits d'hygiène corporelle, et puis aussi dans des produits bas de gamme tels que les gels douche, crèmes hydratantes, des grandes surfaces commerciales.
Ah oui!
Alors, on fait attention avec ça parce que ça se retrouve aussi dans les gels douche et bains moussants pour enfants. Donc, on lit les étiquettes, on privilégie les marques entièrement écolo parce que cette substance-là vous donne malheureusement de l'hypersensibilité. Donc, si vous utilisez trop, votre peau va devenir hypersensible et les allergènes vont vous attaquer beaucoup plus.
Et c'est pas ça qui donne des petites billes blanches
aussi
qu'on retrouve dans le Saint-Laurent, c'est ça, c'est le même produit. Hein,
alors, isothiazolinone, on essaie de s'en rappeler.
Ouais.
Puis, alors non, on n'achète pas.
Ben oui, mais enfin bon. C'est pas non plus toujours facile. Hein. On sait que malheureusement, ce qui coûte le moins cher est le plus nocif. Et tout le monde n'a pas la bourse de pouvoir acheter des produits naturels. Mais c'est vrai que, bon. Eh bien, écoutez, mesdames, c'est déjà fini. Hein? Ça passe vite
ça passe
en votre
vite.
Compagnie.
Très agréable.
Louise Mercier. Merci Stéphanie Balthazar, mes deux collaboratrices de ce matin, en ce mercredi, mes deux voix de service. Vraiment, c'est un bonheur de vous avoir auprès de moi. Restez des nôtres parce que l'émission Les Voix de Service se poursuivent. Je vais notamment recevoir une autre voix de service dans la prochaine demi-heure. Il s'agit de Dominique Meillet, que vous connaissez.